Signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à tous. Le 7 octobre, le livre de la journaliste israélienne Li Yaron, qui sort cette semaine aux éditions Grasset et à l'automne prochain dans le reste du monde, est à la fois une enquête journalistique et un livre de deuil et de mémoire. Enquête journalistique parce qu'il est le premier à transmettre quelque chose de l'ampleur atroce de ce qui s'est passé ce jour-là dans le sud d'Israël, à partir de centaines de témoignages minutieusement recueillis. Livre de deuil et de mémoire aussi, parce que l'enquête se fait à hauteur humaine, en retraçant autant que possible chaque fois le parcours des victimes dans leur trajectoire individuelle et familiale. Livre de mémoire, enfin, parce que l'on se rend compte à quel point ces parcours sont hantés par la violence et la haine, parfois sur des générations. En creux, se dessine ainsi une histoire d'Israël à la fois désidéalisée et aussi tragique et douloureuse qu'éloignée des idéologies. Récit d'une journée, 7 octobre est à lire aussi comme un livre d'histoire par tous ceux qui non seulement veulent savoir ce qui s'est produit ce jour-là, mais aussi par tous ceux qui veulent comprendre quelque chose à ce bout de terre au-delà des slogans. Li Yaron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes israélienne, vous avez 30 ans, vous êtes journaliste à Haaretz. Vous avez couvert jusqu'à présent les questions essentiellement sociales. Vous avez écrit sur les discriminations, vous avez écrit sur les personnes LGBT, vous avez écrit sur la corruption aussi à Haaretz, qui est pratiquement l'un des quotidiens les plus importants d'Israël, l'équivalent en Israël du monde. Et vous sortez aujourd'hui ce livre 7 octobre. D'abord, avant toute chose, comment est-ce que le livre est né?
J'ai commencé cette année avant le 7 octobre de façon complètement différente. J'ai pris pour la première fois après presque une décennie, une année sabbatique de journal pour faire mes études à l'Université de Columbia, pour approfondir encore mes connaissances sur la crise climatique. Je me suis sentie obligée à donner à nos lecteurs à Haaretz de l'information plus importante, plus exacte sur l'autre désastre existentiel qui va nous hanter dans le Moyen-Orient. Mais nous préférons de l'ignorer quand nous parlons d'autres guerres. Et le 7 octobre a changé toutes mes plans. J'ai compris très rapidement que je veux parler au monde et pas juste en public israélien. Et ce livre a été né après un article que j'ai écrit pour le New York Magazine qui parlait de 11 familles. Joachim Schnerf, mon éditeur ici,
éditeur de Grasset, chez Grasset, oui.
Il a lu cet article et il était très ému. Et il m'a demandé, est-ce que je peux approfondir, est-ce que je peux élargir cela? Et j'ai dit tout de suite que je veux écrire au moins 100 histoires. Et c'est comme ça que ce livre a commencé, mais quand j'ai commencé, je n'ai pas compris quelle tâche difficile, dure, cela va être. Et ces derniers mois, j'ai passé faire des interviews avec les familles en deuil, avec des amis. J'ai essayé vraiment, comme vous avez dit, de raconter l'histoire d'Israël et l'histoire de ce conflit israélo-palestinien par ces histoires de ces 100 personnes, par ces histoires
Alors, c'est un livre dans lequel vous vous incluez, c'est-à-dire que vous expliquez qui vous êtes. Un de vos amis, Gal Eisenkot, à qui le livre est dédié, est mort après avoir en mission de sauvetage à Gaza, pendant l'intervention de Gaza, quand un engin piégé a explosé dans un tunnel. Le livre lui est dédié. Il avait servi auparavant comme infirmier auprès des Syriens blessés pendant la guerre civile qui avait déchiré la Syrie. Ce que je veux dire par là, c'est que le livre est essentiellement, plus qu'un livre politique, un livre de parcours humain dans lequel vous vous incluez vous-même. Vous vous présentez dans le livre au début, vous dites « Je suis la fille et la petite fille de réfugiés ayant survécu aux persécutions et au génocide. Je suis juive, je suis israélienne, je suis aussi une femme, une féministe, une journaliste et une militante pour les droits des peuples qui résident entre le Jourdain et la Méditerranée. » Et vous êtes aussi une enfant de la génération d'après la fin des accords d'Oslo, d'après la fin du processus de paix. Une génération qui n'a pas connu l'espoir qui avait été soulevé dans les années 90 par le processus de paix.
J'appartiens à cette génération de jeunes qui le seul pouvoir qu'on nous rappelons, c'est le pouvoir de Benjamin Netanyahu. Pendant toutes ces années, ils nous ont dit qu'on ne peut pas résoudre ce conflit, que nous pouvons seulement le diriger et continuer à vivre à l'ombre de ces conflits. Et ce livre, en quelque sorte, c'était ma tentative de faire mon deuil, de comprendre comment faire un deuil sur tellement de gens, de jeunes gens, peut-être leur donner une sorte de justice par le papier. Dans ce moment où on n'a pas d'espoir, nous sommes très confus. J'ai eu l'impression que écrire, c'est le seul moyen que j'ai pour utiliser, pour s'assurer que leur mémoire ne sera pas effacée, mais pas juste la mémoire de leur mort, mais de leur vie entière, et l'histoire de leur communauté qui est aussi au centre de ces livres dans la société israélienne qui est très diversifiée, mais également vit aussi très centré par ces communautés. Les kibbutz, une partie de ces villes, sont un petit peu des familles élargies. Ils sont plus cela que de villes ou de communautés ailleurs.
Alors, ce qui frappe tout de suite, l'une des tâches qu'accomplit le livre, c'est évidemment de retracer la violence brute de ce qui s'est passé ce jour-là. Vous parlez dans le kibbutz Aloumim, par exemple, les gens du Hamas ont tiré sur tout ce qui bougeait, tué 22 citoyens thaïlandais et népalais, ils ont kidnappé 8, ils ont blessé d'autres encore. Les interrogatoires des prisonniers montrent que les ordres étaient de tuer le maximum de gens. Vous citez un des prisonniers d'écraser la tête à coups de botte, de leur couper les jambes, ce genre de choses. Et c'est ce qui apparaît en particulier, évidemment, on va rentrer un peu dans le détail du livre, dans le massacre de la Rave sur lequel vous revenez assez en détail. On voit les terroristes rire pendant qui tue, crier un juif à juif. Donc vous reconstituez des choses qu'on a vues, qu'on a pu lire en partie dans la presse, mais vous en faites la recension la plus exacte possible. Vous rapportez en particulier le témoignage de Chaim, un orthodoxe de l'association Zaka qui est chargé de récupérer les corps des victimes, père de 6 enfants, qui a été appelé en pleine nuit sur la rave pour récupérer à la nuit les corps qui pouvaient être récupérés sans aucun éclairage parce qu'on avait peur que les gens du Hamas soient toujours présents.
C'est l'histoire de Chaim. Ce n'est pas quelque chose de rare aujourd'hui, quand il y a tellement de volontaires de Zakaï qui ont été appelés à cette mission, mission presque pas humaine, de récupérer tellement de corps. Mais cette histoire nous montre quelque chose de très profond sur ce qui était passé à la société israélienne le 7 octobre. Et après, pendant presque un mois, Chaim et son équipe sont revenus à ce site du festival Nova et dans le kibbutz. Ils ont continué à récupérer de parties de corps, de gens qu'on ne pouvait pas trouver au tout début. C'est difficile à lire et pas toutes les parties du livre sont. Le livre n'est pas complètement graphique, mais les horreurs sont tellement terribles. Les images que j'ai dû voir pour écrire tout cela, elles ne me quittent pas. Et je pensais que ça va faire passer trop facilement pour le Hamas si on ne va pas décrire les choses dans le livre comme cela a été passé.
Alors je vais lire quand même un extrait du livre, justement sur l'arabe, avant d'aller plus loin. Et j'expliquerai après pourquoi je le lis. C'est Raz Cohen qui témoigne de ce qu'il a vu caché dans les buissons. Il a vu une camionnette blanche approcher, 5 hommes habillés en civil en sont sortis à une quarantaine de mètres de lui. Ils portaient tous des poignards et l'un d'entre eux un marteau. Ils ont attrapé une jeune femme aux cheveux blonds et l'ont tenu fermement. Ils ont déchiré ses vêtements et l'ont traîné nu et hurlant avant de former un demi-cercle autour d'elle. Les terroristes avaient des armes. L'une avec des branches, il n'a rien pu faire. L'un des hommes a attrapé la femme par le cou et un autre lui a placé les mains sur le van, l'a penché vers l'avant et l'a violée. Les autres regardaient. Raz Cohen a vu le terroriste la poignarder à plusieurs reprises. La femme a cessé de bouger et de crier, mais le terroriste a continué de faire des va-et-vient dans son corps sans vie. C'est le seul témoignage de viol qui est dans le livre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Et la raison, évidemment, pour laquelle je le cite, c'est l'opération de relativisation ou de dénégation à laquelle on assiste en ce moment, en particulier sur les campus américains. Une des raisons pour lesquelles votre livre est important, c'est de remettre les faits dans l'ordre tel qu'ils se sont passés et d'insister sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là.
En tant que féministe, en tant que femme, j'étais très déçue par les organisations de femmes dans le monde. Nous étions toujours à leur côté, peu importe le lieu où il y avait de violations de droits de femmes. Mais les femmes israéliennes ont été abandonnées par la communauté internationale. Le viol des femmes israéliennes était permis. Et c'était très important pour moi de ne pas dissimuler tout ça et de mettre ce témoignage de Raz sur le viol comme d'autres témoignages par Chaim sur le corps qu'il trouve de femmes nues, de femmes qui étaient mutilées, leur partie intime, qu'ils ont mis des couteaux dans ces parties intimes. Cela nous apprend quelque chose sur le caractère vraiment sadiste de ces attaques. Et ce livre est en quelque sorte là pour défendre contre l'oubli. Il ne va pas laisser ceux qui veulent et ceux qui vont vouloir dans l'avenir de faire d'une gastronomie. Ils ne pourront pas ignorer tous ces témoignages. Et si je peux juste rajouter quelque chose, que c'est les questions de genre, on ignore souvent, mais c'est quelque chose de très important pour comprendre l'attaque de 7 octobre. Car les femmes et les soldats israéliennes et les officiers de l'intelligence en Israël, c'était le seul qui ont averti. Et ils ont vu le Hamas qui fait ses entraînements et les généraux, les hommes, l'ont ignoré. Ils disaient qu'elles sont hystériques. Qu'elle exagère.
Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, les soldats, certaines soldates qu'on appelle les observatrices, sont mises sur les postes, sur les avant-postes de l'armée, pour observer ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, du côté de Gaza, mais elles sont pas armées, en fait, elles sont pas équipées, et en fait, leurs avertissements n'ont pas été pris au sérieux par la hiérarchie militaire. C'est ça que vous racontez dans le livre.
Oui, et je pense que si on les a écoutées, ces jeunes femmes qu'on a mis comme nos yeux à la frontière, mais nous n'avons pas pris en conscience leur cerveau. Si on avait plus de femmes à ce gouvernement de droite, d'extrême droite, peut-être on pouvait mieux éviter ce massacre, au moins le confronter de meilleure façon. Donc, les femmes sont les avertisseurs qui n'ont pas été écoutées. Elles sont également des victimes d'attaques terribles que nous ne devons pas oublier. Et une partie des témoignages qui sortent maintenant de Gaza sont des femmes qui sont attaquées, qui sont violées en captivité. Et beaucoup parmi elles sont toujours là-bas.
Alors, je voudrais qu'on écoute une seconde, une petite parenthèse, ce qui se passe en ce moment à Colombia, où vous avez étudié justement l'année dernière, un extrait des manifestations actuelles à Colombia sur le 7 octobre.
On October 7th, the Palestinian resistance in Gaza broke through the walls of their open-air prison, shattering the illusion of the invincibility of their occupiers. That's right. By setting up this encampment in the heart of the Zionist stronghold of Columbia University, we intend to do the same.
No, remember,
you fucking piece of shit.
Hey, remember the 7th of October.
Never forget the 7th of October.
That will happen.
Never forget the 7th of October.
Not one more time. Not 5 more times. Not 10 more times. Not 100 more times. Not 1,000 more times.
No,
but 10,000 times.
Voilà, alors la première dit, en gros, le 7 octobre, les Palestiniens ont brisé la frontière, ils se sont libérés de leur prison et pour envahir le territoire d'Israël. Nous, ici, en occupant Colombia, nous avons l'intention de faire la même chose. Et le deuxième dit, souvenez-vous du 7 octobre, il y en aura d'autres, pas 10 7 octobre, pas 100, mais des milliers de 7 octobre. Vous avez étudié à Colombia, vous y étiez l'année dernière, pour étudier, comment vous viviez ça?
Ça me brise le cœur et c'est très inquiétant d'entendre ces voix. Pas parce que je ne soutiens pas les Palestiniens et à leur droit d'avoir un État. Comme vous avez dit, je fais partie de Haaretz. J'étais toujours et je serai pour toujours un membre du camp de la paix, de jeunes générations qui demandent d'avoir des dirigeants qui vont trouver des solutions pour ces deux États. Mais de voir une partie d'étudiants qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne connaissent pas quand on leur demande quelle mer, quelle rivière. Et ils sont là aux côtés de Hamas, une organisation terroriste, à la violence, au lieu de soutenir la paix. Et ils menacent de facto sur des Israéliens, sur des Juifs qui ont peur aujourd'hui de venir dans le campus. Et ils sont en danger pour leur sécurité ou pour leur vie, ou soit la situation aujourd'hui, de ce que je vois, de ce que j'entends quand je parle avec des Israéliens, aussi avec des Juifs, et qu'ils ne veulent pas être dans ces campus, ils ne veulent plus. Ils veulent revenir à une société juive plus fermée. Et nous n'avons jamais vu cela depuis des décennies aux États-Unis. On entend des choses ressemblables ici en Europe et c'est quelque chose de très inquiétant. Comment cette attaque n'a pas seulement influencé sur les Israéliens et les Palestiniens, mais en fait sur des Juifs partout dans le monde, que pour nous tous, c'est la croyance, le fait de croire que ces jours de persécution sont finis a été complètement brisé.
Alors, les Yaron, dans cet octobre, je l'ai dit en commençant, l'une des forces du livre, c'est que vous retracez le parcours des gens, de certains en tout cas, de ceux dont vous racontez l'histoire. Le livre n'est pas exhaustif, mais ceux dont vous racontez l'histoire, vous essayez de raconter l'ensemble de leurs histoires. On apprend beaucoup de choses, on apprend des choses que j'ignorais, par exemple sur les Ukrainiens, l'histoire des Juifs ukrainiens depuis l'invasion soviétique en Ukraine, par exemple, plusieurs milliers de réfugiés ukrainiens sont venus s'installer à Ashkelon et Ashdod. Ils ont dû fuir à nouveau en octobre 2003, après le 7 octobre. 50 000 Ukrainiens ont trouvé refuge en Israël depuis le début de la guerre avec la Russie. Voilà, dont un quart au moins de 17 ans. Et depuis le 7 octobre, des dizaines d'entre eux ont servi dans les rangs de Tsahal et certains ont quitté à nouveau Israël pour continuer leur errance. On apprend comme ça beaucoup de choses sur les différentes communautés côté du pays. Et puis, on apprend évidemment l'histoire du kibbutz Be'eri en particulier. Vous racontez que jusque dans les années... C'était une communauté de gauche, les trois quarts, plus de 94% des habitants ont voté pour des partis de gauche ou du centre. Vous racontez comment les habitants de Be'eri ont aidé les Palestiniens de Gaza, en particulier financièrement, notamment à partir du moment où les Palestiniens n'ont plus pu venir travailler en Israël. Est-ce que vous pouvez développer un peu là-dessus ?
Oui, je pense que c'est un point très important de demander qui étaient ces gens qui ont vécu sur la frontière de Gaza, qui ont été assassinés là-bas. Et en quelque sorte, Hamas, il a assassiné le camp de la paix. Il a assassiné les gens qui ont voulu la paix, qui ont travaillé pour la paix. Comme vous avez dit, ils ont donné de l'argent pour transporter le Palestinien malade dans des hôpitaux en Israël. Et dans l'histoire de Be'eri, on voit peut-être de façon plus profonde l'histoire de quelques membres du camp de la paix, Vivian Silver, dont nous avons beaucoup entendu parler, mais d'autres militants comme par exemple Shachar Tzemach. Nous apprenons de connaître l'histoire de sa famille qui fuit en 1941 de Farhoud à Bagdad contre les Juifs et qu'ils arrivent en Israël comme de millions d'autres Juifs qui ont été chassés de pays arabes dans ces années. Et ils n'ont pas d'autre choix. Ils ont perdu leur maison et ils essayent de trouver un endroit sûr.
C'est une des choses que vous montrez, c'est que les gens qui vivaient dans ces kibbutz n'ont pas nécessairement choisi de vivre à cet endroit précisément. La plupart, effectivement, sont des réfugiés. Certains ont fui l'Irak, certains ont fui la Bessarabie, certains, leurs parents, ont fui la Moldavie pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains ont fondé des kibbutz sur des territoires qui ont été rendus aux Palestiniens dans le cadre des accords de Camp David, notamment dans le Sinaï, et sont venus s'installer là où ils pouvaient en réalité. Et dans le cas du kibbutz Be'eri, les habitants ont transporté des patients gazaouis vers des hôpitaux israéliens, leur ont donné plusieurs milliers de shekels après que les Palestiniens n'aient plus pu travailler. Ils se connaissaient quand même depuis très très longtemps, les habitants du kibbutz Be'eri et les Palestiniens qui venaient travailler chez eux se connaissaient, vraiment étaient amis, allaient quelquefois dans les mêmes fêtes, s'invitaient mutuellement dans les mariages. Et un habitant du kibbutz sur 10 a été tué le 7 octobre. Des corps de femmes et de jeunes filles ont été retrouvés nus dans les maisons en ruine à côté d'hommes décapités et d'enfants brûlés vifs, écrivez-vous, avant de raconter l'histoire de Vivian Silver, une juive canadienne qui, au début des années 80, a créé un département officiel dans le kibbutz pour défendre l'égalité de genre, qui était cofondatrice de Women Wage Peace, les femmes déclarent la paix, qui était au conseil d'administration de B'Tselem, une des principales organisations de défense des droits de l'homme en Israël, qui connaissait si bien d'ailleurs les Palestiniens que le 7 octobre, une de ses amies palestiniennes l'a appelée, et ça c'est une anecdote assez déchirante, elle l'a appelée ce matin-là en lui disant « Viviane, qu'est-ce qui se passe ? On a appris que des civils et des militaires ont été kidnappés, qu'ils sont déjà à Gaza, les photos sont atroces. Que fait votre armée ? » Et c'est une Palestinienne qui l'appelle pour l'avertir et lui demander où est l'armée. Et Vivian Silver se fera tuer.
Je pense qu'une partie de ce qu'on entend dans les manifestations, dans les critiques internationales sur Israël, en ce moment, ils n'ont pas assez de connaissances. Ils parlent d'Israël en tant qu'Européen, en tant que colonialiste. C'est pas vrai. Israël, c'est un pays qui est fait de réfugiés. Il est composé de réfugiés, de juifs qui ont fui le pays arabe. Les Juifs qui ont fui de la Shoah, des persécutions dans l'ancien URSS. Et je nie pas que le gouvernement d'Israël ont fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de mal aussi aux Palestiniens. Mais les étudiants aux États-Unis, en quelque sorte, essayent de projeter leur conflit à eux aux États-Unis. Le problème de colonialisme européen et toutes ces histoires au Moyen-Orient et sur nos problèmes dans le seul pays juif au monde. Et c'est quelque chose qui est très erroné. J'espère que ceux qui vont lire ce livre pourront connaître ces communautés qui ont travaillé pour la paix qui ont, et aussi leur passé qui est vraiment des souffrances qui passent peut-être de façon génétique dans le sang, espérant que peut-être que si nous pourront peut-être connaître le deuil de deux côtés et ne pas être tellement aveugles, les Israéliens et les Palestiniens. Entre nous, peut-être nous pourrons avancer vers un avenir meilleur, là où nous ne devrons pas vivre d'une guerre à l'autre. Comme vous venez de dire, moi j'ai 29 ans, c'est tout ce que je me rappelle de la vie en Israël.
Oui, alors c'est effectivement une des choses que vous montrez, c'est comment les parcours des individus se mêlent à la grande histoire. Vous racontez aussi l'histoire de la manière dont les Bédouins ont été tués par le Hamas, et vous réussissez à mêler dans les passages les plus réussis du livre les parcours individuels et la grande histoire. Et c'est une des forces du livre de montrer comment, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, au moment de Camp David, certaines familles israéliennes ont dû déménager, rendre les terres du Sinaï et aller de là où finalement leurs enfants allaient se faire tuer dans le cadre des accords de paix. Une des choses que vous montrez également, c'est comment l'idéologie a joué dans le conflit. Il y a une sorte d'histoire longue du conflit israélo-palestinien qui se dessine en filigrane dans votre livre. Une des choses que vous rappelez, c'est comment a commencé la guerre des six jours, par exemple. Vous dites, le 13 mai 67, des responsables soviétiques ont informé la Syrie et l'Égypte qu'Israël avait amassé des troupes près de la frontière syrienne. Il s'agissait de rapports fallacieux et peut-être de désinformation délibérée, et Nasser a réagi en déployant de nombreux soldats dans la péninsule du Sinaï, et puis ça a entraîné la guerre. Et ces trois lignes-là m'ont frappé parce que c'est un des éléments qu'on sous-estime souvent dans l'histoire du conflit, c'est le poids de la guerre froide et la propagande de la propagande idéologique pendant la guerre froide qui a mis l'huile sur le feu du conflit israélo-palestinien.
Oui, une partie de ces histoires qui parlent sur ces communautés israéliennes qui ont dû quitter l'Égypte racontent l'histoire de l'espoir israélien de terre contre la paix et aussi l'échec, parce que ces familles qui sont arrivées là-bas dans les années 70, une partie des immigrants de New York, de l'Argentine, de différents endroits, ils ont donné tout pour construire une sorte de rêve d'une nouvelle communauté dans le désert. Et après quelques années, avec la signature des accords de paix, avec l'espoir, Susie Vax, l'une des femmes que deux de ses enfants ont été tués le 7 octobre, elle dit quand elle devait quitter l'Égypte, le Sinaï, elle dit « Je suis tellement triste de quitter, mais je ferai tout pour la paix et pour que mes enfants ne devront pas aller à la guerre. » Et malheureusement, ces deux fils ont été assassinés par le terroriste de Hamas, Netiva Asara, le nouveau Netiva Asara qui a déménagé. Mais comme vous dites, il y a aussi les histoires de la population bédouine. Qu'ils sont une partie intégrale de la population israélienne. 25% des Israéliens sont des Arabes israéliens ou des Palestiniens, comme ils se définissent. L'une des histoires qui me quitte pas, c'est l'histoire de Sujoud. C'est une maman de 21 ans. Elle était censée devenir mère. Elle était enceinte de 9 mois et 4 jours le 7 octobre. Et quand le travail a commencé, elle a demandé à son mari de se dépêcher d'arriver à l'hôpital car elle avait des contractions. Mais malgré... Elle, sur la route de l'hôpital, elle portait un hijab et elle avait complètement elle avait une apparence musulmane, mais les terroristes du Hamas ont tiré deux balles dans le ventre, et son nouveau-né, toujours pas, ce qui n'était pas encore né, est mort après 10 heures. C'était son bouclier humain. Sujoud était été sauvée, mais elle se demande pourquoi cela m'est arrivé, pourquoi ils m'ont tiré dessus. Est-ce que notre communauté des Arabes israéliens, des Bédouins, est-ce que nous aussi, on n'a pas de droit à vivre? Jusqu'où ira ces conflits? Ces terroristes n'avaient pas de pitié pour personne. Vous avez parlé aussi de l'histoire des étudiants népalais. Ils étaient un groupe de 17 jeunes qui sont arrivés en Israël juste 3 semaines avant le massacre. Et ils ont donné tout leur argent pour étudier. Ils ont rêvé de donner un avenir meilleur pour leur famille très pauvre au Népal. Ils se sont trouvés dans ce massacre quand ils ne savaient même pas reconnaître si les gens parlent arabe ou hébreu. Une partie d'eux sont sortis dehors de l'abri parce qu'ils pensaient que leur patron est arrivé. Mais en fait, c'était un terroriste. Ils étaient tellement étrangers à ce conflit. Et 3 parmi eux ont survécu et c'est avec eux que je parlais pour ce chapitre qui parle de ce étudiant agricole népalais qui prend la place de kibboutznik dans le temps. Et jusque maintenant, en Israël, dans les hôpitaux, ils sont toujours là, tout seuls, sans soutien. Ils ont des cauchemars interminables sur ces heures où ils ont vu leur ami entrant blessé aux côtés d'eux. Ils n'ont pas de réponse. La communauté internationale a complètement oublié.
Ces gens, oui. Une des choses que vous montrez dans votre livre, c'est la constance de la tentative de politique d'échange de terres pour la paix. Et c'est ce qui s'est passé notamment à Gaza. Vous citez, il y a 2 discours d'hommes politiques israéliens qui sont assez bouleversants dans le contexte actuel. Il y a celui d'Ariel Sharon en octobre 2004, quand Israël se retire de Gaza et laisse le contrôle de la terre aux Palestiniens. « Je suis profondément convaincu, dit Sharon, de tout mon cœur et de toute ma raison, que ce désengagement emportera le respect et la bénédiction des nations proches et lointaines, diminuera les hostilités, mettra fin au boycott et au blocus et nous projettera vers une paix avec les Palestiniens et les pays voisins. » C'est pas exactement ce qui s'est passé.
Oui. Le désengagement, c'est un moment très important quand nous essayons de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, aussi entre les Israéliens et les Palestiniens, et aussi dans le conflit israélien intérieur. Le désengagement est en quelque sorte pas juste la naissance de Hamas, mais aussi la naissance de ce gouvernement d'extrême droite que nous avons en ce moment. Une partie de ministres que nous avons aujourd'hui, comme Bezalel Smotrich, étaient ceux qui ont mené la manifestation contre le désengagement. Ils ont dit que si Israël va faire ce désengagement de 21 communautés de Gaza, c'est qu'il va arriver à Gaza, ce que nous allons avoir plus de terrorisme, plus de guerre. Et Sharon, qui était un homme de droite, qui était le père de colonies, était contre eux et il a désengagé ces localités. Il a dit non, cela ne va pas arriver, on va avoir une vie paisible à côté de Gaza.
Effectivement, Sharon était un homme de droite, mais c'était quelqu'un qui connaissait très bien l'histoire du sionisme et l'histoire d'Israël. Et on a l'impression que les hommes de droite d'aujourd'hui, et d'extrême droite encore plus, ne savent pas, ne connaissent pas, n'ont pas la conscience que pouvait avoir Ariel Sharon, des gens comme Sharon ou même comme Begin, de ce qu'était l'histoire du sionisme et l'histoire d'Israël. On a l'impression qu'il y a une coupure mentale entre les anciens sionistes, même de droite, et les plus jeunes.
Oui, en Israël d'aujourd'hui, Sharon et Begin étaient considérés comme membres de gauche, en fait. Si on voit le standard de notre gouvernement actuel. Et Bezalel Smotrich et Ben Gvir, qui étaient parmi ceux qui étaient ce groupe contre Rabin, qui étaient aussi dans les ambitions. Ils ont été inquiétés après le meurtre. Ce sont des gens qui étaient nés politiquement en tant qu'opposition à Sharon, ceux qui étaient à l'époque la droite. Ils ont dit, si Israël nous trahit de cette façon, elle donne ces terres que pour eux sont une partie intégrale de ce que et Israël aux Palestiniens. Ils ont dit qu'ils vont entrer dans le jeu politique, ils vont tout faire pour changer la société israélienne, pas juste politiquement, aussi dans les tribunaux, dans l'armée, dans toutes les positions de pouvoir pour être sûr que quelque chose comme ça, comme le désengagement de Gaza, ne va pas arriver dans le Cisjordanie. Et pour eux, le 7 octobre, bon, avant tout la montée de Hamas au pouvoir à Gaza, et maintenant le 7 octobre est la preuve ultime à la victoire de leur position, de cette position israélienne de droite, qui est en fait un miroir à ces rivières à la mer de ces étudiants. Le côté israélien qui dit juste un seul pays, juste pour nous, et les Palestiniens peuvent vivre avec, peut-être pas tous leurs droits ou une partie de leurs droits en Israël. Moi, je crois toujours qu'ils ne représentent pas la majorité du public israélien. On le voit dans des sondages quand on demande au public israélien qui soutient encore une solution à deux États. On voit que ces partenaires extrémistes de Netanyahou pour survivre ces procès ne représentent pas. Et c'est très important que le public pourra distinguer entre le pouvoir et les gens en Israël. Les gens savent faire toujours très bien quand on parle de la Russie ou de Poutine ou de la Chine, mais quand on parle maintenant d'Israël, l'opinion publique oublie qu'il y a la gauche, qu'il y a le militant de la paix, les centaines de milliers de gens qui sont dans la rue depuis presque un an pour défendre la démocratie et demander la paix.
Mais la gauche a tout de même été un peu décapité par le 7 octobre, non?
Nous sommes dans un moment critique pour Israël. La gauche était petite avant le 7 octobre, mais nous avons beaucoup du centre en Israël, des Israéliens sains qui ne soutiennent pas l'extrême droite, qui veulent trouver une solution, même s'ils ne vont pas manifester tout le jour contre l'occupation, mais ils voient leur avenir aux côtés de leurs voisins palestiniens. Et nous voyons plusieurs réactions au 7 octobre. C'est vrai que dans la coalition actuelle, on voit une montée de soutien au parti très extrémiste de Ben Gvir. Et en même temps, Netanyahou, il chute dans les sondages comme ça ne lui est pas arrivé depuis des années. Et le soutien pour le parti centriste de Ben Gantz avec Gadi Eisenkot monte. Donc, si les Israéliens vont réussir à faire venir les élections prochainement, qui c'est une vraie question parce que on est censé avoir des élections dans 3 ans et comme Netanyahou ne prend pas la responsabilité à cette faille et le ministre ne veut pas démissionner, on se demande si on va avoir des élections. Mais si on va avoir des élections, il y a un très bon. Il y a beaucoup de chances qu'on va avoir un gouvernement différent.
Alors, l'autre discours important d'un homme politique que vous citez dans le livre, c'est le discours de Moshe Dayan, assez lointain. Ça se passe en 56, je crois, après la mort le kidnapping et la mort d'un jeune kibboutznik par des Palestiniens qui le tue et qui lui crève les yeux après l'avoir emmené à Gaza. Moshe Dayan fait un discours que vous citez intégralement. Je vais en citer juste qu'un extrait. Il dit « En cette heure, ne blâmons pas ces meurtriers. Pourquoi s'insurger de la haine viscérale qu'ils nous portent? Depuis maintenant 8 ans, ils languissent dans les camps de réfugiés à Gaza et sous leurs yeux, nous avons fait nôtres les terres et les villages où leurs pères et eux résidaient. Comment avons-nous pu fermer les yeux et refuser de regarder en face notre sort, refuser de voir dans toute sa brutalité la destinée de notre génération? Faisons preuve de lucidité vis-à-vis de nous-mêmes. Nous sommes une génération qui colonise des terres et sans casque en acier ni canon de fusil, nous serons capables de planter un arbre ou de construire une maison. Ne soyons pas aveugles à la haine, etc. etc. » Il y a, de la part de Moshe Dayan, une très grande lucidité à l'époque sur la réalité de la situation et sur la réalité de la haine que provoque l'existence de l'État d'Israël. Et c'est cette lucidité qui doit permettre normalement le dialogue avec l'ennemi. Et on a l'impression que c'est ça qui manque aujourd'hui, de part et d'autre d'ailleurs. Je citais tout à l'heure cette femme palestinienne qui appelle Vivian Silver pour lui dire que fait votre armée. On a l'impression que les gens qui peuvent se parler sont marginalisés, et qui peuvent être lucides sont marginalisés, et que les pires des deux côtés sont ceux qui agissent, en fait.
Oui, j'ai mis ce discours de Moshe Dayan, et en face, à la fin de ce chapitre, le discours du président israélien actuel, Yitzhak Herzog, le 8 octobre. Là, il parle de ce discours de Dayan, mais sans empathie aux Palestiniens. Et je pense que c'est triste de voir que depuis 1956 jusqu'à 2024, nous n'avons rien, on n'avançait en rien dans les tentatives à résoudre ces conflits. Au contraire, l'empathie qu'un dirigeant israélien pouvait exprimer à l'époque n'est plus possible, nous sommes plus aveugles, plus sourds, et le mur entre nous sont devenus plus grands. Et en quelque sorte, ce livre demande d'être, ou peut-être veut être, une sorte d'une petite pierre, une petite tentative dans cette volonté des Israéliens et des Palestiniens de s'écouter. Parce que la chose la plus basique que nous devons faire, c'est de reconnaître la souffrance et les victimes que nous causons l'un à l'autre. Je ne sais pas si votre public le connaisse, mais la presse israélienne montre presque pas ce qui arrive à Gaza, les victimes de cette guerre. Israël est en quelque sorte gelé le jour de 7 octobre et elle vit toujours ses horreurs tout le jour avec tellement familles d'otages, de familles en deuil. Et je partage leur douleur très profonde, mais je pense que les journalistes israéliens doivent montrer au public israélien ce que tout le monde voit. Et aussi, du côté palestinien, il y a un négationnisme par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, qu'on parle avec des Palestiniens en Cisjordanie, et surtout à Gaza, ils ne reconnaissent pas les horreurs.
Merci, Liaron.
Back my broken night, my mirrored room and my secret life. It's lonely here, there's no one left to torture. Give me absolute control over every living soul. And lie beside me, baby, that's an order. Give me crack and careless sex. Take the only tree that's left and stuff it up the hole in your culture. Give me back the Berlin Wall. Give me Stalin and St. Paul. I've seen the future, brother. It is murder. Things are gonna slide. Won't be nothing you can measure anymore. The blizzard of the world has crossed the threshold and it's overturned the order of the soul. Witnesses.
Merci Liaron d'avoir été là. Merci Lior Silverstein pour la traduction. Je rappelle le titre du livre, tout simplement 7 octobre, la journée la plus meurtrière de l'histoire d'Israël, racontée par les victimes et leurs proches, avec une postface, il faut le dire, du romancier Joshua Cohen, qui est aussi votre mari, accessoirement, et une traduction assurée par Colin Reingerwitz et Laurent Trève. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Ludovic Auger et à la réalisation Luc Jean Renault.
You don't know me from the wind, you never will and you never did. I'm the little Jew who wrote the the Bible. I've seen the nations rise and fall. I've heard their stories, heard them all. But love is the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cold. It's over, it ain't going any further. And now the wheels of heaven stop. You feel the devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder. Things are gonna slide.
Slide in a direction.
Won't be nothing, won't be nothing you can measure anymore. The blizzard, the blizzard of the world has crossed the threshold and it's overturned the order of the soul. Repent. I wonder what...